Roxane Gonzalez, Ajra Turki, qui bosse, elle, vous savez qu'elle est infirmière, elle bosse ce soir, elle a pas pu, elle a eu son planning qui a été modifié au dernier moment, et elle donne son pouvoir à Sylvie Jeunel. Ah non, non, à qui Ajra Turki, c'est. Ouais. Ah, Mylène, c'est Brigitte, ouais, excusez-moi, ouais. Ouais, c'est Brigitte. Ajra Turki et Sylvie Jeunel-Homier. Ouais. Mohamed Ben Arougha. Présent. Ouais, j'ai encore des pouvoirs qui arrivent. Gaël Nicolin. Hervé Madinier donne son pouvoir, est en vacances, lui, à Michel Vendra. Assunta Rosin-Bedin. Assunta. Assunta. Assunta Rosin-Bedin. Ben voilà. Merci, Madame Assunta. Benjamin Torelli, qui lui est retenu pour son boulot, donne pouvoir à Jérôme Boéti. Françette Jerzac, qui est malade, visiblement, qui est positive, donne son pouvoir à Christine Durand. Jean-Philippe Vaux donne son pouvoir à Serraï, qui est retenu à une autre réunion du SEN. Nathalie Levrat. Jean-Pierre Aveto, qui est à l'hôpital toujours, hein, qui sort dans 10 jours, donc il donne son pouvoir à Mohamed Ben Arougha. Amandine Emon-Chenevet, Thierry Masnada, Farid Benzakour a donné son pouvoir à Isabelle Defay, qui est présente, je suppose, oui, elle est là. Marie-Laure Mayou, alors j'ai reçu des pouvoirs là pour Mayou. Mayou qui donne son pouvoir à Géraldine Palcou. Ensuite, j'ai Raphaël Laboissière qui est présent. J'ai Franck Schneider qui est présent. Voilà, très bien. Géraldine Palcou qui est présente. J'ai Isabelle Defay qui est présente. J'ai Pierre-Manuel Chauvet qui donne son pouvoir à Raphaël Laboissière. Et j'ai Vincent Poher qui est absent et qui donne son pouvoir à Franck Schneider. On fait passer la liste pour les signatures, la liste des présents. Je donne tous les pouvoirs au secrétariat. Comme ça, je m'en débarrasse. Comme ça, j'en parle plus. Attends, je vérifie que c'est bien tous les pouvoirs. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, nous avons le quorum. Je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal. Il nous faut voter un ou une secrétaire de séance, un ou une qui est volontaire pour être secrétaire de séance. Et ben voilà, Amandine Emon-Chenevet est volontaire. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci Amandine qui est secrétaire, donc il doit rester jusqu'à la fin du conseil, hein, obligatoirement. Mais elle reste habituellement, donc ça ne posera pas trop de problèmes, je pense. J'ai reçu une seule question du groupe S'unir pour Sassenage. On verra ça à la fin. Hein, j'en ai une. Il n'y en a pas deux? J'en ai reçu qu'une, moi. J'ai eu qu'une question. Ok. Il nous faut adopter le compte rendu de notre précédent conseil municipal de notre réunion du 19 mai 2022. Est-ce que tout le monde l'a lu? Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas d'intervention. Donc je vous propose de le voter. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Merci. Donc il est adopté à l'unanimité. J'avais deux décisions municipales que j'ai prises. Donc une sur une demande à l'EPFL pour une préemption d'un logement. Et une autre pour une convention d'occupation précaire et révocable. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux décisions? Pas de questions, personne? Eh bien, de toute façon, elles seront affichées. Il n'y a pas de souci, on peut répondre quand vous le souhaitez. Bien, et puisqu'il n'y a rien d'autre, je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal. N'y a pas la presse, tiens, c'est bizarre, mais bon. Ça se nage, j'intéresse plus la presse. En fait, comme il se passe rien. Ouais. Délibération numéro 1 concernant une décision modificative de notre budget sur 2022. Donc c'est bien que cette décision, la numéro 1, arrive seulement en juillet, hein, c'est-à-dire en milieu de mandat. Ça veut dire que notre budget, pour l'instant, correspondait aux prévisions. Hein, mais il nous faut la modifier suite au passage de la M14 à la M57. Et je vais passer la parole à Daniel d'Olivier Quintas, adjoint aux finances.
Et bonsoir à tous. Donc cette délibération, l'introduction de cette délibération, celle-ci n'appelle aucun vote d'un montant budgétaire supplémentaire par rapport au budget primitif. Donc c'est important de le souligner. Il s'agit donc de reventiler par transposition impliquant des écritures nouvelles et des mécanismes budgétaires nouveaux suite au passage donc de la nomenclature M57, prenant en compte également une adaptation des prévisions financières nécessaires face à l'actualité dont nous subissons aujourd'hui déjà des contraintes. De plus, les lignes précédentes fléchées dans les dépenses imprévues en fonctionnement et en investissement dans notre équilibre budgétaire sont dorénavant proscrites, les dépenses envisagées devant être par défaut ventilées par anticipation. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une opération neutre à 0 euro. L'ensemble de ces ventilations fait suite à une analyse fine de manière à répondre à la modernisation des services, à l'amélioration de l'accueil des usagers et des conditions de travail des agents, de créer du lien entre les services et le rapatriement centralisé des services à la population en mairie, à l'acquisition des outils d'action significatives, d'anticiper sur l'inflation des produits consommables, gaz, électricité, carburant, répondre à des investissements non prévus tels que la chaudière de l'école Rivoire de la Dame ou de la foudre qui nous a impacté à l'école de Vercors, pour exemple. Notre volonté est l'amélioration des services et à notre population et de travail pour nos agents. Apprécions au passage l'acquisition de capteurs pour nos écoles avec l'octroi de subventions, des travaux en mairie, je l'ai déjà souligné, et la prise en compte des imprévus et l'amélioration des outils de travail. Chaque ligne du tableau annexé, analysée et complétée, ont fait l'objet donc d'une analyse fine lors de la commission du 23 juin 2022 par l'ensemble des membres de la commission. Je ne reviendrai donc pas sur l'ensemble des lignes du document annexé. Il n'y a eu aucun amendement concernant ces ventilations des lignes budgétaires, soit les 150 000 euros en fonctionnement et les 69 000 euros en investissement. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 1 pour le budget principal 2022.
Merci Daniel. Juste avant de passer la parole aux questions, s'il y en a, on a l'honneur et la présence d'avoir Jérôme, premier adjoint, qui est arrivé. Il a fait un effort pour arriver avant le vote de la première délibération. On le remercie. Et Mylène aussi est arrivée. Ah ben bravo, donc merci. Merci à ces deux élus d'être arrivés pour le vote de la première délibération. Merci à vous en tout cas. Et je vous promets que j'ai rien fait pour vous attendre. On a démarré normalement. En tout cas, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur... Oui, monsieur Laboissière, vous avez la parole.
Donc, bonsoir monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Nous allons nous abstenir du vote de cette délibération comme nous l'avons toujours fait, parce que notre groupe n'est jamais associé aux décisions préalables concernant les arbitrages budgétaires. Nous avions bien pris note qu'il s'agit principalement d'un jeu d'écriture, dû au passage du référentiel budgétaire et comptable M14 au M57, mais aussi de l'intégration de nouveaux postes et dépenses dites imprévues. À cet égard, et tout en saluant la réinstauration des commissions en 2022, force est de constater que la commission d'administration générale reste une mini-chambre d'enregistrement des décisions du groupe majoritaire. Toutes nos demandes de documents attenant à ces modifications ne sont pas satisfaites. En l'occurrence, nous avions demandé les détails des missions de l'avocat qui s'occupera de la contestation de la demande de la ISMAG concernant la déclaration d'utilité publique du maître au câble. Vous comprenez bien, chers collègues, que nous faisons cette demande dans un souci de transparence démocratique vis-à-vis de l'utilisation de l'argent public, surtout quand il s'agit d'une somme tellement élevée, 18 000 euros, selon les tableaux annexés à la délibération. Vous nous avez expliqué, monsieur le maire, qu'il s'agit des documents non communicables. Je l'ai bien entendu et je ne reviendrai pas là-dessus. Je souhaite juste que la demande que j'ai faite à la fois en commission et lors de notre réunion des présidents des groupes soit aussi exprimée devant cette assemblée. Également, nous apprenons le provisionnement des 4 000 euros supplémentaires de frais d'avocat pour une autre affaire. Nous aimerions avoir plus de précisions sur cette nouvelle dépense et à minima savoir de quel type de contentieux il s'agit. Nous estimons que cela commence à faire beaucoup assassinage avec toutes ces dépenses d'argent du contribuable liées à des contentieux juridiques qui pourraient certainement être évités avec une administration et une gouvernance plus saine et plus sensée de notre commune. Merci.
Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre demande la parole ? Non. Bien, alors je vais... Non, moi, Monsieur Laboissière, Monsieur le Président du groupe, on a des commissions, on a mis en place des commissions pour poser toutes les questions. Et vous avez tout loisir de poser les questions. En commission, elles sont faites pour cela. Je vous rappelle qu'on a mis il y a trois commissions. Dans chacune des commissions, on a mis trois élus. Dans deux commissions, trois élus de votre groupe et deux élus dans l'autre. On constate en tout cas que ces commissions, il y a seulement un élu qui vient à chaque commission. Vous pouvez poser toutes les questions. On en a discuté en réunion de président. Devenir tout seul et travailler après, nous pensons, nous, que ce n'est pas efficace. D'ailleurs, on a contrôlé, nous, à chaque commission, on a au moins 3 ou 4 élus de notre groupe qui est présent. Minimum 3, et c'est arrivé une fois. Autrement, il y a 4 élus à toutes les commissions. Donc ça veut dire que... Quand il y a un seul élu qui vient, et surtout de votre groupe, eh ben, il n'a pas toutes les notions, en tout cas, et pas toutes les pensées sur les réponses qui sont posées. Quand on est à plusieurs, on arrive mieux à poser des questions et échanger. Donc il ne faut pas nous reprocher derrière de ne pas répondre ou de ne pas comprendre ou de ne pas intervenir. Les commissions, en fait, sont des commissions techniques pour poser des questions. Donc posez des questions, vous les avez posées, on vous répond derrière. Derrière, on a une réunion des présidents de groupe, vous reposez les mêmes questions. On donne les mêmes réponses. Derrière, vous arrivez en conseil, vous reposez les mêmes questions. On vous donne les mêmes réponses. Quand vous dites, alors vous ne reviendrez pas sur le problème des missions de l'avocat, on en a parlé en réunion des présidents et vous y revenez. Encore, vous dites, vous n'y revenez pas, donc dans votre intervention, vous contredisez. Vous dites que vous ne reviendrez pas dessus et vous y revenez. On vous a expliqué que les missions de l'avocat, c'est un document qui ne peut pas... C'est la loi, ce n'est pas moi qui le fais, ce n'est pas moi qui décide, Christian Coignet. C'est la loi, les contrats avec les avocats sont des contrats confidentiels, on ne peut pas les communiquer. Par contre, en réunion des présidents, je vous ai dit, mais si vous voulez, je vous explique à quoi ça correspond, je vous le dis, vous m'avez dit non. À partir du moment que ce n'est pas communicable, on n'a pas besoin de savoir. Donc il faudrait savoir ce que vous voulez. Moi, ce n'est pas communicable, mais je peux vous le dire verbalement. Vous ne voulez pas qu'on vous le dise verbalement, donc il faudrait savoir. Il ne faut pas nous reprocher derrière ce que vous ne voulez pas entendre comme question. Donc vous posez les questions, on vous donne des réponses. Et ce n'est pas parce qu'on a créé des commissions et que vous venez en commission qui sont des lieux d'échange, encore une fois, qu'on doit répondre à tous vos désirs et toutes vos demandes. On vous explique en commission ce qu'on peut faire. D'ailleurs, il y a une délibération, on vous a entendu, on a modifié hein, derrière. Vous avez posé une question, on a modifié. Mais il y en a où on ne peut pas. Voilà. Et quand on ne peut pas, vous dites, bah ouais, mais on ne peut pas échanger, on n'a pas satisfaction. Bah oui, mais on ne va pas vous donner satisfaction à vos questions qui ne correspondent pas à ce qu'on souhaite. On vous dit pourquoi on ne peut pas, on vous dit ce qu'il en est. Sur la décision modificative, on vous a répondu à toutes les lignes, puisque toutes les lignes ont été évoquées en commission, on vous a répondu à chaque ligne. Maintenant, si vous dites derrière, vous ne votez pas, bah, vous ne votez pas, vous abstenez, c'est votre problème. Mais il ne faut pas nous reprocher derrière de ne pas être transparent. À un moment, soit vous comprenez, et il n'y a pas de souci, soit vous ne comprenez pas, mais tant pis pour vous, je ne peux rien faire pour vous. Moi, hein. On va au maximum, en tout cas dans la discussion. Mais c'est pareil pour le comité technique, vous redemandez en tout cas à avoir des informations sur le comité technique. Vous n'en faites pas partie, tous les comptes rendus sont communicables uniquement, c'est la loi là aussi, c'est pas moi, uniquement aux membres du comité technique. Je ne peux pas faire autrement. D'ailleurs, si je faisais autrement que ce que préconise la loi, vous me le reprocheriez derrière. Donc moi, je veux bien tout, mais à un moment, il faut que chacun y mette du sien. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions là-dessus ? Oui, madame. Oui, allez-y.
Il y a une petite généralisation sur les commissions, parce que vous avez dit rapidement qu'il n'y a qu'un seul élu à chaque fois. Ce sont les commissions où il y en a deux. Vous n'avez pas noté le fait que la commission où il y a trois élus, ils sont tout le temps là. Donc je trouve que c'est un petit peu facile de généraliser sur nos présences ou absences. Je pense que chacun a des contraintes et fait au mieux de ce qu'il peut. Et si on commence à compter les absents dans chaque groupe, je trouve que c'est vraiment dommage.
Bah oui, madame, mais... Il y a des obligations de conseil municipal. Alors moi, j'ai les retours des présidents de groupe qui me disent à chaque fois, il n'y a qu'un élu, voire deux maximum. Mais souvent, très souvent, il n'y a qu'un élu qui est présent à ces commissions. Je vous rappelle qu'il y a des présences obligatoires qui sont celles des commissions et des conseils municipaux. Et que ces présences-là, enfin que ces conseils et ces commissions, on vous a donné un planning début d'année pour les 6 mois. Là, on vient de vous renvoyer le planning pour les 6 prochains mois de l'année. Donc on ne vous les donne pas au dernier moment, on vous les donne donc à chacun de s'organiser pour être présent. Oui, monsieur Labrousse.
Oui, c'est normal que vous soyez trois quand on est un, parce que vous êtes trois fois plus nombreux que nous.
Oui, sauf que nous, on est quatre dans les commissions ou cinq, et que vous êtes trois, et que ce n'est pas trois fois plus nombreux, c'est une fois et demie. Ouais. Quand vous êtes un, on devrait être deux. On est quatre, trois, voire quatre. Non. Bon, on va arrêter le débat ici, parce que je pense que ce sera un débat de sourds, un dialogue de sourds. En tout cas, moi, j'estime que... Et on estime qu'on est transparent là-dessus, mais il faut que chacun veuille vouloir, quoi. Je voulais juste vous donner, je vais en profiter puisqu'on en est dans les finances, une pétition qui a été menée par l'Association des maires de France sur les finances des collectivités, que j'ai signée d'ailleurs au nom du conseil municipal. Et donc, comme je l'ai signée, je me dois de vous en faire part. Alors, c'était amené par un courrier. La conjoncture amène les collectivités territoriales et particulièrement les communes vers une triste certitude budgétaire. La consommation de leur capacité d'autofinancement par les augmentations considérables des charges obligatoires, constituées en particulier par le coût de l'énergie, le coût de la construction ou encore le coût des denrées alimentaires. Face à cette réalité, la seule promesse de l'État consiste en la réduction des dotations aux collectivités à hauteur de 10 milliards d'euros au moins. Cet effet ciseau ne sera pas tenable pour les collectivités et impactera dramatiquement les entreprises qu'elles font vivre et donc l'emploi dans notre pays. Sur la pétition. En effet, face à la flambée de ces dépenses de fonctionnement qui, pour certaines, ont été multipliées par 6 en quelques mois, beaucoup de collectivités territoriales doivent adapter l'équilibre de leur budget, soit en augmentant les taux des impôts ou les politiques tarifaires d'accès aux services publics, soit en renonçant à des investissements. Certaines d'entre elles ont même été contraintes de fermer temporairement des équipements publics. La situation est très préoccupante. En effet, dans le cadre du plan de relance et plus globalement dans la construction, la réhabilitation et la gestion des équipements en France, les collectivités territoriales restent les principaux financeurs de projets structurants. La hausse des dépenses de fonctionnement conjuguée à l'hypothèse d'une réfraction des dotations de l'État risque de créer un effet ciseau réduisant irrémédiablement la capacité d'autofinancement des collectivités territoriales ainsi que le recours à l'emprunt dont le remboursement demeure une dépense obligatoire. L'investissement public risque de diminuer drastiquement dans les prochains mois avec des conséquences dramatiques sur l'activité économique des entreprises et sur l'emploi. Beaucoup de décideurs locaux, pour faire face à la hausse des prix, engagent en responsabilité une plus grande maîtrise des consommations d'électricité et de gaz par une utilisation rationnelle des équipements, notamment l'éclairage public, le recours à des contrats de performance énergétique, voire des travaux de rénovation énergétique et des projets d'autoconsommation. Ces démarches généreront néanmoins un impact comptable à moyen terme seulement. L'augmentation du coût de l'énergie s'ajoute à celle du coût de la construction, à celle du coût des matières premières et des denrées alimentaires, ainsi qu'à l'augmentation du point d'indice des agents publics au 1er juillet 2022 qui, si elle est méritée compte tenu de leur engagement au service de l'intérêt général, impacte également dans d'importantes proportions les finances de l'État. Face à cette situation inquiétante pour les collectivités territoriales, mais surtout pour le devenir de nos territoires et pour le maintien de la cohésion sociale dans ces périodes troublées, nous demandons à l'État d'agir immédiatement et de soutenir les collectivités territoriales par des compensations financières ainsi que par le maintien des dotations de l'État. Donc voilà, cette pétition, je l'ai signée, elle est menée par l'Association des maires de France. Elle est adressée au président de la République et à Madame la Première ministre. Moi, je pense quand même que les contribuables sont suffisamment impactés et que je ne proposerai pas, en tout cas, au conseil municipal d'augmenter les taux. Alors, on verra ça, en tout cas, au budget, mais je ne proposerai pas d'augmenter les taux parce que tout le monde est saturé d'impôts et de charges, en tout cas. Mais il nous faut trouver des économies sur notre budget de fonctionnement. On a engagé il y a quelques années... Ouais, excusez-moi, je bois un coup parce que c'est le... Dès qu'on parle de finances, ça me bloque la gorge. On a engagé des réductions de dépenses, on a isolé les bâtiments, on a commencé depuis de nombreuses années. J'ai toujours dit qu'il fallait de moins en moins compter sur l'argent public. On s'en est aperçu, en tout cas je m'en suis aperçu, il y a déjà une dizaine d'années où on a commencé à avoir des réductions, des compensations de l'État. Et j'ai toujours dit qu'il faudra compter sur nous plutôt que compter sur le contribuable et compter sur l'État. On voit que toutes les compensations de l'État, et je pense à la dernière qui est sur la taxe d'habitation qui a été reprise par l'État et qui nous est compensée, mais qui est gelée sur 2019, c'est-à-dire tout ce qu'on construit après 2019, pour l'instant, on n'a pas de compensation des taxes d'habitation. Ça veut dire qu'à un moment, et ces taxes d'habitation, on sait qu'elles seront compensées pendant quelques années, et puis ensuite, l'État, il va les supprimer. Donc à un moment, on s'y attendait depuis quelques années. On a engagé des réductions de dépenses sur le fonctionnement, ce qui nous a permis de continuer à bien vivre et de continuer nos investissements bon an, mal an. Mais en tout cas, il faut encore faire des efforts. Donc je demande à tout le monde, à l'ensemble des élus du conseil municipal, de réfléchir sur des solutions. Et là, on n'y arrivera que si on y va collectivement, hein, ensemble. Si chacun a des propositions et qu'il les fait parvenir pour réduire encore les coûts, et bien à condition que ce soit des propositions qui soient viables et qui soient cohérentes, en tout cas et objectives. Mais en tout cas, rien n'empêche de faire des propositions et puis on estimera derrière si... Ah, j'ai oublié de couper mon téléphone, je suis désolé. C'est en ce moment, je ne sais pas si c'est vous le cas, si vous c'est le cas, mais il n'y a que des appels de spam pour les économies d'énergie, pour je ne sais plus quoi, c'est toute la journée. Voilà, c'est coupé, excusez-moi. Donc si vous avez des études, si vous avez des propositions, en tout cas sur des réductions, des possibilités de réduire nos coûts de fonctionnement, eh bien, je suis preneur. Donc on verra qui nous fera ces propositions et on les étudiera, je vous le garantis. Là-dessus, je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions?
Excusez-moi, question encore de précision sur le vote.
Ouais,
vous n'avez pas répondu à ma question.
J'ai pas répondu à votre question qui était
quoi? Oui, de 4 000 euros supplémentaires des frais d'avocat.
Mais encore une fois, monsieur, le conseil municipal est là pour poser des questions sur la politique des décisions et pas sur les questions techniques. Il y a des commissions pour ça. Alors, on va vous répondre encore. Mais essayez de poser ces questions en commission. C'est fait pour ça, de manière à ce qu'en commission, si on n'arrive pas à répondre, on puisse les préparer pour vous répondre derrière ou essayer d'avoir le temps avant le conseil ou pendant le conseil de vous répondre. Alors, je veux bien encore cette fois, mais en tout cas, restez dans le conseillement. Les 4 000 euros de quoi? Il n'a pas entendu notre... Mets ton micro. Ouais.
Oui, il s'agit des 4 000 euros, hein, on est d'accord. C'est sûr, effectivement, c'est une somme qui a été rajoutée au montant, étant donné que c'est, comme je vous ai expliqué lors de la commission, c'était pas prévu au départ qu'on ait ce contentieux. Quand on élabore un budget, rappelez-vous qu'on a, on a des contentieux qu'on connaît, mais celui-là, il est arrivé en cours de... après le vote du budget principal. C'est ce qu'on vous a expliqué lors de la commission. Et bien sûr, je ne rentrerai pas sur le détail du contentieux.
Donc on vous a donné effectivement l'explication. Donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Ouais, 8 abstentions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Merci. Donc la délibération est adoptée. Délibération numéro 2 concernant l'indemnité de gardiennage pour l'église Saint-Pierre. Et je peux repasser la parole à Daniel, adjoint aux finances.
Oui, cette délibération donc, qui est nommée indemnité de gardiennage, je viendrai sur des précisions, consiste au versement d'une indemnité dite de gardiennage au préposé qu'on appelle aussi l'économe. Il est chargé d'assurer diverses missions. Cette indemnité n'a pas fait l'objet d'une réévaluation depuis 1995, ainsi qu'une réévaluation en euros. Donc le montant fixé annuellement est de 479,86 euros et tient compte du réajustement du passage à l'euro. L'économe demeurant sur la commune a sollicité le versement de cette indemnité pour 2022. Petite précision, l'économe paroissial est nommé par l'autorité paroissiale pour une durée de 4 ans renouvelable. En étroite collaboration avec ceci, il est sous sa responsabilité, en charge d'organiser matériel et économique de la paroisse. L'économe paroissial assure le lien entre le diocèse et la paroisse, tant sur le plan de la gestion comptable que celle des biens immobiliers. Il est le garant de la qualité des comptes annuels, assure le suivi de l'entretien des églises qui sont propriétés de la commune. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le versement de l'indemnité de gardiennage pour l'église Saint-Pierre pour un montant de 479,86 €.
Alors, le montant a été versé tous les ans au relais d'église par une décision du maire qui était basée sur les délibérations de 95. Comme elle est en francs, on s'en est aperçu, donc on la revalorise en euros. Et donc maintenant, les décisions chaque année seront prises par rapport à cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Des abstentions, des oppositions ? Merci. La délibération numéro 2 est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 3 concernant l'ajustement des effectifs et des emplois. Donc je rappelle que c'est des mutations externes du personnel et des recrutements en lien avec les mouvements nécessitant de mettre à jour le tableau des effectifs. Il y a des emplois avec des grades que l'on supprime et on en recrée en face avec l'effet, la date d'effet qui est en face. Cette délibération a été présentée au comité technique avec un avis unanime favorable. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, monsieur Laboissière, vous avez la parole.
Donc, nous voterons pour cette délibération. Mais nous nous permettrons d'exprimer notre mécontentement du fait que nous ne participons pas au comité technique. Notre demande qui a été faite lors de la dernière séance du conseil municipal a été sommairement refusée. Ce refus, à notre avis, représente une mauvaise vision de la vie démocratique et participative de notre commune. Si vous n'avez rien à vous reprocher, comme vous le dites souvent, alors notre présence au comité technique ne devrait pas vous poser des problèmes particuliers. Nous souhaitons également exprimer notre mécontentement vis-à-vis de notre demande de nous faire parvenir l'avis du comité technique qui a cité dans sa délibération. Vous, monsieur le maire, vous m'avez bien expliqué qu'il s'agit d'un document non communicable. Nous en prenons note. Mais, tout comme en remarque lors de l'explication du vote de la délibération numéro 1, nous souhaitons laisser une trace publique de notre demande devant cette assemblée. Merci.
Merci, monsieur Laboissière. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions ? Merci. Délibération numéro 3 adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 4 concernant le service scolaire avec une nouvelle tarification selon le taux horaire. Pour la garderie du soir, je passe la parole à Christine Durand, adjointe à la vie scolaire.
À la demande de nombreuses familles, à compter du 1er septembre prochain, une nouvelle tarification pour une seule heure du soir de 16h30 à 17h30 sera proposée, comme c'est le cas pour l'heure de garderie du matin de 7h30 à 8h30. Jusqu'à présent, seul un forfait de 2 heures était proposé pour la garderie du soir. Pour une plus grande cohérence, ces tarifs ont été revus selon un taux horaire décliné par tranche de caution familiale, sauf pour les cartes occasionnelles qui permettent 5 passages en garderie qui sont restés au même tarif. Je vous propose d'intégrer ce nouveau taux horaire selon les différents cautions familiaux et cette nouvelle tarification à l'heure pour la garderie du soir selon le tableau à compter du 1er septembre 2022.
Merci Christine. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Ah oui, Roxane. Roxane, une question.
Cette délibération fait vraiment suite aux demandes des parents. Je pense qu'on peut s'en féliciter. Et actuellement, au vu de l'inflation, je pense que c'est aussi une chance pour le pouvoir d'achat des familles.
Tout à fait. Merci, Roxane. Pas d'autres interventions. C'était effectivement important de le souligner. C'est un vrai travail qui a été un vrai travail collaboratif qui a été engagé par le service scolaire et avec effectivement la collaboration des familles, des parents d'élèves. Et qui résulte, cette délibération en résulte. Je vous propose de passer, sachant que j'ai entendu quand même des communes, des communes riveraines qui ont décidé, face aux problèmes de gestion des budgétaires, ils ont décidé d'augmenter, eux, par contre, les tarifs des garderies scolaires et des cantines. Nous, pour l'instant, on arrive à maintenir ces tarifs-là. Mais il y a des communes environnantes qui ont engagé cette augmentation, oui.
Il faut préciser que les tarifs n'ont pas été augmentés depuis 2014.
Merci. Un mandat. Deux mandats. Bravo. Un et demi, ouais. Merci de l'avoir précisé également. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Et là, c'est bien de le dire aussi quand c'est bien. Hein. Voilà. On entend que quand c'est pas bien, mais quand c'est bien, personne ne le dit. Donc merci, merci aux élus de la majorité de le souligner. Je vous propose de passer au vote. Encore une fois, est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Merci. Délibération numéro 4 adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 5 concernant le règlement intérieur des différents temps périscolaires avec une mise à jour. Je repasse la parole à Christine Durand.
Cette délibération propose une mise à jour du règlement intérieur des temps périscolaires, incluant les derniers changements liés à la tarification et au remboursement en cas de pandémie ou de grève des agents communaux. Modification aussi concernant les PAI. Lors de la dernière commission Vie de la Cité, il avait été demandé à ce que le paragraphe de la restauration lié aux sorties organisées par les enseignants soit revu. Après réflexion, il semble logique de demander aux enseignants qui sont à l'origine de l'organisation des sorties scolaires de décommander le repas de leur élève auprès du service scolaire. Par contre, il n'était pas envisageable de facturer les oublis d'annulation des enseignants aux familles qui, elles, ne sont pas organisatrices. Le paragraphe a été retravaillé pour une meilleure compréhension, mais les repas oubliés ne seront facturés auprès de la coopérative scolaire de l'école concernée. À noter que ces annulations peuvent se faire dès la sortie scolaire actée, sans besoin d'attendre la veille pour prévenir l'annulation. De plus, comme le précise ce paragraphe, la facturation ne se fait qu'en cas de récidive récurrente.
Merci. Sachant qu'on a engagé une réflexion et une action, en tout cas sur l'anti-gaspillage des repas, hein, des aliments, et que tout le monde doit en être conscient, et commencer par les enseignants. Qu'on a réussi quand même, et grâce effectivement au travail qui est engagé par les services en collaboration avec Christine Durand, quand les repas ne sont pas pris, de les céder à la banque alimentaire. Donc ils ne sont pas gaspillés, pas perdus en tout cas, quoique des fois c'est pas aussi facile que ça pour la banque alimentaire de les retraiter, mais en tout cas voilà, il nous faut sensibiliser les enseignants à ça, à prendre leurs responsabilités, et le seul moyen malheureusement c'est de les impliquer sur le financement. En tout cas, c'est une proposition qui a été faite par le groupe se réunir à Sassenage, c'est ça, ouais, non, s'unir à Sassenage, ouais. Et en tout cas, merci, parce que ben voilà, on l'a prise en compte. Et on l'a prise en compte comme quoi, vous voyez, les questions, souvent, on les prend en compte. Enfin, souvent, quand on peut, on les prend. Quand elles sont justifiées, comme c'est le cas. Oui, madame.
Juste, est-ce que je peux me permettre, dans la version finalisée proposée, ça manque un petit peu de clarté sur la notion d'oubli répété. Est-ce qu'il serait possible de dire que, je sais pas, la mairie prendra en charge le premier oubli? Parce que c'est pas clairement stipulé.
Ouais, vous avez raison, c'est la question que j'ai posée aussi. On m'a répondu que c'était à partir du deuxième oubli. Ouais.
Mais c'est pas marqué.
Il faut qu'on précise. Ouais, vous avez raison, parce que j'ai posé aussi la question.
Enfin, ça manque de clarté.
En cas d'oubli répété.
Ouais, mais répété en cas du deuxième oubli.
Voilà, la répétition, c'est pas.
Ouais, j'ai proposé autre chose. J'ai proposé de supprimer répété, de dire en cas d'oubli, en facture, et qu'on pourra. Si vraiment c'est la première fois et que l'enseignant s'est fait avoir et nous prouve qu'il est de bonne foi, eh ben on ne le facturera pas. Ça reste à nos dispositions.
Ça sera peut-être plus simple dans cette formulation. Ouais. Et par contre, vis-à-vis de la facturation à la coopérative de l'école, est-ce que ça a été vu avec les. Est-ce que ça a été perçu comment avec les écoles?
Oui, vas-y, Christine.
Peut-être répondre. Alors, effectivement, la première fois, on ne facture pas. C'est la ville qui prend en charge les repas. À partir de la deuxième fois, je pense qu'on fait assez de piqûres de rappel, autant le jour de la rentrée que sans arrêt tout au long de l'année. La deuxième fois, effectivement, on facture à la coopérative de l'école. C'est arrivé cette année parce qu'on a pris en charge une fois, deux fois. La troisième fois, je pensais que c'était un peu trop. Donc, effectivement, on a facturé à la coopérative de l'école. Je ne citerai pas l'école sur laquelle on a pris les repas.
Ah, c'est déjà arrivé une fois, et au pire, on a facturé. La trésorerie, de toute façon, il faut qu'elle facture. Il faut qu'elle facture. Quoi, je répète ce que tu dis? Non? Ah, pas citer l'école. Si, si, moi, je le dis. Il faut être transparent. Oui, c'est pas moi qui ne veux pas être transparent. Non, mais elle le fait, pas juste raison. Mais moi, je préfère être transparent. On l'a fait au PI parce que c'est un enseignant des PI qui ça fait plusieurs fois qui nous fait le coup, trois fois, et donc on a facturé. Voilà. Et je pense que c'est normal qu'on facture. Par contre, ce que je vous propose, c'est effectivement de supprimer répéter. Après, la question quand même, c'était pas ça, c'était est-ce que les enseignants et les parents d'élèves ont été associés à cette décision? Non. Non, parce que nous, il faut qu'on facture. Oui.
Je remets le planning avec toi qui est présent. Je leur dis.
Oui, une information qui a été faite. On va refaire une information parce que à chaque rentrée scolaire, je fais le tour avec les règlements hein, de toutes les écoles et tous les directeurs et on va leur redire, on va les renseigner. Et puis au conseil d'école, certains conseils d'école, ça a été évoqué, pas tous, mais en tout cas, on va le resignifier dès les premiers conseils d'école. Ouais. Mais non, il faut que quelqu'un paye. De toute façon, ce n'est pas une décision des parents d'élèves, hein, c'est la nôtre de dire qu'à un moment, il faut que quelqu'un paye. Voilà. Et après, ben, si les enseignants, les parents d'élèves derrière qui leur disent « Oui, mais l'argent est pris au détriment de nos enfants », et ben, peut-être que les enseignants y réagiront. Voilà. Oui. Ouais. Ok. Pas d'autres questions. Votre micro est toujours ouvert, madame. Ah, t'as pas fini. Vas-y, alors. Ouais, tout le monde a la délibération. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Des interventions encore? Non? Pas de questions, pas d'interventions. Ok, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 6 concernant une demande de subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale sur un appel à projet handicap EAJE qui veut dire... Elle est où, Marie-Frédérique? Qui veut dire quoi, EAJE?
Alors, ça veut dire établissement... alors, attendez, je ne dis pas de bêtises.
D'accompagnement.
Non, établissement d'accueil des jeunes enfants.
Voilà, établissement d'accueil des jeunes enfants. Donc, on t'écoute, Marie-Frédérique.
Donc, cette délibération concerne une demande de subvention auprès de la CAF, la Caisse d'allocation familiale de l'Isère, pour permettre de participer aux coûts liés au renforcement du personnel pour accueillir les enfants ou l'enfant atteint, porteur d'handicap et accompagner leur famille au sein du multi-accueil Les Lucioles. Voilà. Ah, mais je n'avais pas mis mon micro. Ah, si.
Il y a un bug informatique. Bon, c'est pas grave, tout le monde a la délibération. Donc, c'est bon, bravo. C'était pour le public. Pour le nombreux publics, c'est important qu'il ait le texte. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Merci, délibération numéro 6. Adopté à l'unanimité. Nous en arrivons à la dernière délibération. Nous avons terminé. J'avais une question donc, du groupe S'unir pour Sassenage. Je vous la lis. Nous savons le groupe majoritaire capable de se mobiliser pour les sujets qui lui tiennent à cœur, y compris lorsqu'ils sont dans le périmètre de compétences de la métro. En témoignent les réunions et manifestations organisées contre le projet de métro câble. Vous êtes en revanche peu visible sur les problématiques de sécurité des piétons et cyclistes qui sont pourtant toujours d'actualité dans notre commune. S'agit-il là d'un désintérêt? Nous espérons que non. La commune pourrait-elle manifester de façon plus visible son soutien aux améliorations des conditions de circulation, en particulier avec la sécurisation des passages piétons aux abords des écoles, de manière générale, la circulation des piétons cycles sur l'avenue de Valence, l'avenue de Romans, la rue de l'Argentière, des fours à chaud et l'accès au pont des Martyrs? Alors d'abord, pour vous répondre, ben, le métro cap, ça concerne Sassenage, hein, parce qu'il passe quand même sur Sassenage, et je crois que ça concerne pleinement les élus de Sassenage et les populations de Sassenage, y compris l'ensemble des populations et pas seulement les riverains, puisque ce métro câble en transversal n'induira aucune amélioration sur le trafic routier, sur les avenues de Romans et de Valence, justement. Et quand vous parlez de la sécurité sur les avenues de Romans et de Valence, et bien si on avait un transport en commun ou un transport par câble qui part des Engenières, on réduirait fortement la circulation sur les avenues de Romans et de Valence. Ce serait bon pour la sécurité routière, pour les piétons, pour les cycles, pour la pollution. Voilà, donc, et pour le cadre de vie et l'environnement. Donc c'est bien dans notre mission de donner notre point de vue sur le transport par câble qui, je vous le rappelle, part de Fontaine. Et pour aller au pont des Martyrs, au lieu de partir directement de Fontaine, eh ben, il passe par Sassenage sans aucun avantage pour Sassenage. C'est-à-dire que Sassenage ne subira que les nuisances sans aucun avantage. Voilà pourquoi nous portons, c'est la seule solution que nous avons, nous portons notre désaccord sur ce projet-là de manière forte. Par contre, je vous rappelle, et là c'est l'inverse de ce que vous dites, parce que sur les conditions de sécurisation des passages piétons, je vous rappelle quand même, et sur les avenues de Valence, de Romans, de l'Argentière, des Fours à Chaux et du Pont des Martyrs, je vous rappelle quand même que depuis 2016, vous n'êtes pas sans le savoir, que l'ensemble des voies, des communes, des rues, pardon, et des trottoirs, ont été, des 49 communes, ont été transférées à la métro. C'est donc la métro qui est propriétaire de ces voiries, et seule la métropole peut intervenir sur ces voiries. Donc nous, on ne peut pas du tout intervenir, ni pour boucher le moindre trou, ni pour aménager les trottoirs, ni pour effectivement aménager la sécurité. Par contre, on travaille depuis quelques années, et notamment si on veut parler du dernier accident mortel qui a eu lieu sur un passage piéton de la commune, depuis un an, on travaille fortement avec la métro pour améliorer la sécurisation des passages protégés qui sont sur l'avenue de Romans et qui sont palliés à un feu de signalisation routière. Sauf que la métro est longue à réagir, c'est pas nouveau, hein, je vous apprends rien, mais en tout cas, il y a un manque de réactivité. Mais en tout cas, on arrive au bout, puisqu'on a obtenu quand même tout de suite, dans l'immédiat, de rallonger, de passer la largeur des passages piétons de 2 mètres à 4 mètres, donc avec une meilleure visibilité, un avertissement par des panneaux, même si on sait que les panneaux, il y en a tellement dans les villes que les gens ne les regardent plus. Et on va avoir, les travaux devaient démarrer normalement en juin pour mettre des îlots au milieu de la rue de Romans, de l'avenue de Romans, pour séparer la circulation dans les deux sens, avec ce qui permet d'avoir un îlot de protection pour les piétons et d'avoir une meilleure visibilité entre les deux sens de circulation. Malheureusement, comme le Tour de France passe à Sassenage, malheureusement ou heureusement en tout cas, le Tour de France passe à Sassenage et d'aucuns trouveront un intérêt à rester sur la commune pour voir passer le Tour de France. Et c'est pour nous, c'est une action sportive en tout cas et médiatique pour Sassenage, parce que je vous rappelle, c'est regardé par le monde entier, que le Tour de France est suivi par hélicoptère et que bien entendu, il y aura un point fort sur le château de Sassenage et sur la qualité des parcs de Sassenage vu d'hélicoptère. Et donc les voiries, les îlots seront faits tout de suite après, c'est ce que nous a promis la métro en tout cas, les travaux seront engagés tout de suite après le passage du Tour de France. On a demandé malgré tout depuis quelques temps d'au moins refaire le traçage sur l'avenue de Romans et l'avenue de Valence. La métro nous répond que le traçage, puisque c'est pour les bus, donc les transports en commun, donc ça dépend du SMAG. Donc le SMAG dit ben, on interviendra quand la métro aura fait les îlots, on ne va pas intervenir avant. Donc voilà, donc le SMAG est intervenu pour refaire les traçages jusqu'à la place Jean-Prévot en venant de Carrefour Marquette jusqu'à la place Jean-Prévot, ils sont arrêtés là. J'espère qu'ils vont continuer en tout cas et que la protection sera faite. En ce qui concerne les écoles et notamment la sécurité aux abords des écoles, ben, je pense qu'on a... Ça fait un moment qu'on y travaille en conseil d'école avec les parents, avec les enseignants, avec toutes les écoles qui sont aux abords des rues, notamment avec le hameau du château pour le carrefour, enfin les feux de signalisation qui sont au passage protégé entre la Rolandière et l'école du hameau du château. On a même mis des bonhommes qui signalent l'école. On s'est les fait voler par des jeunes. Alors, on a les caméras et on sait que c'est des jeunes. Mais malheureusement, les jeunes, ils sont à pied. Ils n'ont pas de numéro d'immatriculation. Donc, il n'y a pas des jeunes de Sassenage. Donc, ni connus des gendarmes, ni connus des policiers municipaux. Donc, on ne peut pas les retrouver. Par contre, sur les trois qui ont été volés, on en a retrouvé deux dans le Furon. Donc on va réparer, pour la rentrée, on va réparer les fixations et on va les remettre en place. On est en train de travailler avec les délégués de l'école Vercors, on est en train de travailler sur un grand projet de sécurisation, de réfection des abords de l'école Vercors. Il faut le travailler là aussi avec la métro. Donc on va travailler nous sur un premier projet hein, ensemble et que l'on présentera à la métro parce qu'effectivement il y a un vrai problème. Un vrai problème parce qu'on ne peut pas mettre la police municipale à toutes les écoles. Hein, on a la police municipale, malheureusement, on a 4 écoles. Et les 4 écoles nécessitent la présence de la police municipale aux heures de grande entrée, notamment le matin. Donc la police ne peut pas être de partout. Donc on le fait par alternance. Et effectivement, quand la police municipale n'est pas présente, eh bien, il y a des débordements. Et d'ailleurs quelquefois, je ne vais pas dire souvent, mais quelquefois, dû aux parents d'élèves qui arrivent très vite parce qu'ils déposent leurs gamins et qu'ils veulent repartir très vite. Et c'est ceux-là derrière qui se plaignent qu'effectivement, il y a des problèmes de sécurité. Mais en tout cas, tout ça, on l'avance. Croyez bien, monsieur le président du groupe S'unir pour Sassenage, qu'on ne reste pas les bras croisés et qu'on travaille avec l'ensemble des parents d'élèves. Voilà, et pour l'école des Pies également, pour l'école Rivoire de la Dame également, on a travaillé hein, sur les parkings avec la métro. Malheureusement, encore une fois, hein, nous on proposait la métro et la métro dit oui ou non. Ouais. Dit oui ou non sur les propositions qui sont faites. On essaye en tout cas de promouvoir toutes les propositions et de les enregistrer et de les reporter fidèlement en tout cas à la métro. Donc voilà, on fait tout ce qu'il faut, même si c'est moins notre compétence, hein, mais en tout cas, on le fait. La compétence là sur les voiries s'arrête juste à mon devoir de police, de sécurité des citoyens. Ce que je fais largement, et on est très impliqués là-dessus. Donc j'espère que ma réponse vous satisfait, et croyez bien qu'on travaille quotidiennement avec l'ensemble des élus du groupe majoritaire sur ces problèmes de sécurité. Voilà, nous en avons terminé. J'ai une dernière information. Une dernière information, j'ai reçu un courrier qui n'est pas plaisant, mais bon, c'est la vie en tout cas. Donc je me dois de vous informer, c'est un courrier de notre amie Brigitte Gallo, hein, qui est membre du conseil municipal de Sassenage depuis 2008. Elle est parmi nous et elle souhaite aujourd'hui se retirer de cette fonction, enfin d'élu en tout cas du conseil municipal. En effet, pour des raisons familiales, il ne m'est plus possible d'assurer ma présence en conseil municipal. Je répète, pour des raisons familiales, il ne m'est plus possible d'assurer ma présence en conseil municipal. Par conséquent, je vous adresse par la présente mes démissions du conseil municipal à compter de la réception de cette lettre. Donc voilà, c'est difficile pour nous. Je pense que c'est difficile pour Brigitte, mais je vais lui donner la parole pour s'exprimer.
Regarde-moi pas.
Faut pas la regarder. Donc je te regarde pas non plus.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, ce soir, c'est avec le cœur serré que j'ai remis ma démission. Celle-ci prendra effet à la date du 7 septembre 2022. Donc aujourd'hui, 7 juillet, sera donc mon dernier conseil municipal à vos côtés. Cette démission est uniquement d'ordre familial. Chers collègues, je tenais à vous remercier pour la confiance que vous m'avez témoignée durant toutes ces années. Monsieur le maire, comme vous le savez, ma loyauté, mon engagement à votre égard, ma mobilisation au quotidien pour l'intérêt général n'a jamais failli depuis 2008. Je tenais à remercier sincèrement les agents du Saint-Exupéry et les agents des festivités pour leur implication et leur dévouement de tous les jours. Ensemble, nous sommes restés fidèles à nos valeurs et nous avons œuvré pour apporter joie et bonheur par nos manifestations, malgré cette période difficile que nous avons tous subie. Monsieur le maire, chers collègues, ainsi que tous les agents communaux, je vous remercie de tous ces bons moments et je vous souhaite une bonne continuation.
Donc on termine ce conseil avec un moment d'émotion fort, important. Encore une fois, on regrettera Brigitte sur toute l'action qu'elle a menée, notamment sur les animations qui sont reconnues, l'élan qu'elle a donné au personnel pour les mener derrière, tout l'engagement qu'elle a mis au sein du conseil. Son remplacement va être difficile, hein, parce que c'est pas évident de s'impliquer comme elle s'impliquait. Malheureusement, son implication, eh bien, a conduit à ce qui arrive aujourd'hui. Donc, nous, on te souhaite en tout cas une belle retraite, parce que c'est une retraite que tu prends, et une retraite qui, j'espère, sera très heureuse, en tout cas. Et puis, on continuera à t'appeler, on continuera à venir, et tu pourras venir au conseil municipal en tant que public, mais c'est avec plaisir qu'on t'accueillera, et ça nous fera toujours plaisir de te voir. Et tu sais que la porte de mon bureau t'est toujours ouverte sans problème, parce que Brigitte voit beaucoup de monde. Elle est très efficace, en tout cas dans les remontées d'informations, parce qu'elle roule en tout cas d'un conseiller municipal, mais également dans l'action qu'elle a menée, dans l'action positive et sa bonne humeur. En tout cas, elle est communicative à tout le monde. Bon, ce soir, on a un peu d'émotion, mais même l'émotion est communicative. Parce que tu vois, j'ai failli moi aussi verser une larme. Donc, j'étais pas loin. Donc, merci encore à toi, Brigitte. Et puis voilà. Et bonne soirée à tout le monde. Merci. Et oui, prochain conseil le 22 septembre.